VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 18 octobre 2018. Procédure de destitution lancée contre le président de l'Assemblée nationale centrafricaine Abdou Karim Mekassoua. 20 ans de prison et 5 millions d'amendes pour l'opposant béninois Sébastien Adjavou. La sœur de l'opposant camerounais John Fundi a été enlevée et les militants anglophones sont pointés du doigt. L'opposant congolais Félix Tshisekedi, leader de l'UDPS, est en visite à Washington. Et le président américain Donald Trump menace de fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La Minute Éco, les sports, ce sera juste après le journal. Une procédure de destitution est lancée contre le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Abdou Karim Mekassoua, accusé de mauvaise gestion. Signée par 95 députés sur 140, elle doit être examinée par la conférence des présidents des commissions avant d'être exposée en plénière. Notre correspondant à Bangui, Freeman Tsipila, nous en dit plus.
C'est finalement jeudi dans la soirée que la demande a été déposée au secrétariat permanent de l'Assemblée nationale pour être transférée à la conférence des présidents des commissions parlementaires. Les 95 députés qui ont signé le document accusent Abdou Karim Mekassoua de manquement à son devoir et de mauvaise gestion. Mathieu Dimbélé Nakoué, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale.
Quel exemple nous pouvons donner aujourd'hui? Si nous sommes vraiment plongés dans des scandales financiers, administratifs, l'Assemblée nationale est devenue la risée de la population. Alors qu'est-ce que nous allons dire? Quel compte nous allons rendre à nos électeurs?
Dans son discours le 1er octobre dernier, à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale en cours, le président du Parlement s'était montré déterminé à affronter ses adversaires à Gand, je cite, que ceux qui veulent lancer la procédure de destitution le fassent. Je suis prêt, je ne suis pas naïf, mais qu'ils le fassent dans la transparence et le respect de la Constitution. Fin de citation. Si cette demande arrivait à être validée, les députés procéderont la semaine prochaine à l'élection d'un nouveau président. Ce climat délétère au sein du Parlement inquiète les centrafricains qui craignent une nouvelle crise politique dans un pays déjà fragilisé par de nombreuses années de conflits armés. Freeman Tsipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Cameroun, la requête de Maurice Kamto vient d'être rejetée comme non justifiée. Pas d'annulation partielle de l'élection présidentielle dans les 7 régions sollicitées. La décision vient d'être annoncée par le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Les 9 arguments du candidat du MRC qui soutenait sa demande en annulation de l'élection dans ces régions, y compris les 2 zones anglophones, ont été jugés non fondés par les 11 membres du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, la sœur de l'opposant camerounais John Fundi a été enlevée mercredi par des séparatistes anglophones dans la région du Nord-Ouest et la maison du président du SDF incendiée, a annoncé un avocat de ce parti. Maître Francis Samin a fait cette annonce lors de l'examen au Conseil constitutionnel de la requête introduite par le SDF exigeant l'annulation de la présidentielle du 7 octobre. Monsieur Fundi, qui s'est toujours opposé à la partition du Cameroun et pour un retour au fédéralisme abandonné en 1972. En République démocratique du Congo, la seule femme candidate à la présidentielle du 23 décembre en RDC, donc Marie-Josée Ifoku, a accusé le pouvoir de Kinshasa de l'avoir empêchée de sortir du pays. Elle affirme avoir été retenue par la Direction générale des migrations alors qu'elle voulait se rendre à Brazzaville sur l'autre rive du fleuve Congo. Dans notre parti magazine, Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle du 23 décembre, sera notre invité. De violents combats ont eu lieu ce mardi entre l'armée malienne et des djihadistes dans le nord du Mali, déclenchant une intervention aérienne de la force Barkhane. Le point avec notre correspondant à Gao, Boubacar Touré, nous y reviendrons plus tard. 20 ans de prison ferme et une amende de 5 millions pour l'opposant béninois Sébastien Adjavon et chacun des trois co-accusés. Le verdict sans appel est tombé ce matin dans le procès sur l'affaire de cocaïne devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleuradandé, nous en dit plus.
À l'ouverture du procès, les avocats de Sébastien Adjavon et de ses co-accusés se sont heurtés aux exigences de la CRIET. La présence de l'homme d'affaires est exigée. Le juge ramène loin en refusant de donner la parole aux avocats qui n'ont pas caché leur étonnement et mécontentement. Surpris par cette décision de la Cour, ils sont sortis de la salle, laissant seuls le juge et le ministère public qui sont allés au bout de ce procès. Maître Tchèque Diop, l'un des avocats de l'homme d'affaires, exprime ici son mécontentement.
Ce qui se passe là, ça se passe pas dans les juridictions. Un juge ne refuse pas à un avocat de prendre la parole. Et c'est regrettable parce que ça nous fait 60 ans en arrière, surtout avec ce pays qui donne l'exemple.
Il faut dire que Ulrich Tambono, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a requis 20 ans de prison ferme, 6 millions d'amende et un mandat d'arrêt international contre Sébastien Adjavon. Pour le moment, tous les regards sont tournés vers le juge. De Cotonou, Jeannette Fleuradandé pour VOA Afrique.
La mission catholique du Niger a demandé à ses fidèles d'organiser des prières et de jeûner pour obtenir la libération du missionnaire italien Pierre Luigi Macali, enlevé il y a 3 mois dans le sud-ouest du Niger. Le prêtre italien a été enlevé le 17 septembre par des hommes armés en moto à Bamouanga, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Son lieu de captivité est toujours inconnu. Plusieurs femmes ont manifesté ce jeudi à Monrovia au Libéria pour la protection des filles après le scandale des viols subis par des élèves d'une école dirigée par l'ONG américaine More Than Me. Le cofondateur de l'association McIntosh Johnson, accusé dans cette affaire, est décédé du sida en 2016. D'autre part, dans un rapport publié aujourd'hui, Human Rights Watch dénonce la violence et l'exploitation sexuelle des filles par des enseignants et responsables des écoles secondaires au Sénégal. Bien que les faits soient passibles de peine de prison, les cas sont rarement signalés et encore moins sanctionnés, déplore l'ONG.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont décidé de donner quelques jours de plus à l'Arabie Saoudite pour expliquer la disparition du journaliste Jamal Khashoggi, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo de retour de Riyad. Tout en se défendant de chercher à couvrir Riyad, Donald Trump a mis en avant récemment les intérêts stratégiques qui lient son pays au royaume, notamment la lutte contre le terrorisme et l'influence de l'Iran et les contrats d'armement avec que leur retombée économique. Le président américain Donald Trump menace de fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Des milliers de migrants traversent actuellement l'Amérique centrale à pied dans l'espoir d'une vie meilleure en Amérique du Nord. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
Dans un tweet ce matin, le président Trump a demandé au Mexique de stopper ce qu'il appelle un assaut. Et il avertit, s'il n'est pas capable de le faire, je ferai appel à l'armée américaine et fermerai notre frontière du Sud. Donald Trump a également renouvelé dans un deuxième tweet ses menaces de couper les aides financières aux pays d'Amérique centrale concernés. Les migrants venus notamment du Honduras ont traversé le Salvador et le Guatemala. L'assaut sur notre pays, à notre frontière sud, y compris les éléments criminels et les drogues qui affluent, sont beaucoup plus importants pour moi que le commerce, a-t-il écrit. Donald Trump a également visé les membres du Parti démocrate qui veulent, selon lui, ouvrir les frontières et sur lesquelles il a rejeté la responsabilité de lois faibles. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, doit se rendre aujourd'hui et demain au Panama et au Mexique.
Washington a offert une récompense de 5 millions de dollars pour la capture de Khaled Batarfi, un dirigeant d'Al-Qaïda qui avait appelé à attaquer des juifs et américains dans le monde entier lorsque les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce Saoudien a soutenu les talibans en Afghanistan avant de devenir un des principaux dirigeants du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Le département d'État américain offre cette récompense à quiconque pourrait mener les autorités jusqu'à lui ou contribuer à son arrestation ou son passage devant la justice. Et en Afghanistan, une fusillade revendiquée par les talibans à l'intérieur du gouvernorat de Kandahar, où se trouvait le commandant des forces de l'OTAN, a fait 3 morts, dont un responsable de la police afghane, et 13 blessés. Un taliban avait infiltré une réunion à laquelle assistaient des officiers afghans de haut rang et le chef de l'armée américaine en Afghanistan. Le général Scott Miller, qui participait à ces discussions sur la sécurité avant le scrutin législatif de samedi, est indemne selon un communiqué de la mission de l'OTAN. Et la période de transition post-Brexit sera probablement prolongée au-delà de 2020 afin de donner plus de temps à Londres et l'Union européenne pour négocier les termes de leurs futures relations, a estimé le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Air Côte d'Ivoire est une très bonne compagnie qui a un très bon niveau de service, selon les mots de Jean-Luc Mévelec, nouveau directeur régional d'Air France. Air Côte d'Ivoire a accumulé une perte de 65 milliards de francs CFA en 5 ans d'existence. Air France KLM maintient néanmoins son partenariat stratégique avec la compagnie ivoirienne, évoquant une situation concurrentielle compliquée. La compagnie poursuit son expansion en Afrique où elle dessert déjà 20 capitales et a annoncé l'acquisition de 5 nouveaux avions d'ici 3 ans. En Guinée-Bissau, le gouvernement et la Fédération nationale des associations de transport ont signé aujourd'hui un protocole d'accord mettant un terme à la grève qui paralyse le pays depuis mardi. Les grévistes dénonçaient les rackets policiers, l'augmentation des taxes et le mauvais état des routes. Macky Sall, le président sénégalais, a lancé aujourd'hui le projet de développement du tourisme et des entreprises à la station balnéaire de Sali, au sud de Dakar et non loin du nouvel aéroport international. Ce projet bénéficie d'un financement de plus de 40 milliards de francs CFA.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Soupçon de corruption dans le foot nigérian.
Et oui, 3 représentants de la Fédération nigériane de football ont été accusés d'avoir détourné 9,5 millions de dollars de subventions de la FIFA pour leur usage personnel. Christopher Ondekin, Jafarou Fadanari Mamza et Rajan Zaka auraient détourné cet argent en 2015, selon une enquête de la Commission des crimes économiques et financiers. La Fédération nigériane de football, ébranlée par de nombreux scandales, la FIFA, instance dirigeante du foot mondial, ainsi que la CAF, ont appelé à des réformes pour remédier aux divergences au Nigeria.
Autre affaire de corruption au Kenya.
Le légendaire athlète kényan Kip Keino et l'ancien ministre des Sports Hassan Wario, inculpés pour corruption et détournement de fonds lors des Jeux Olympiques 2016 à Rio, se sont rendus à la police conformément à une injonction de la justice. Kipchoge Keino, 78 ans, double champion olympique du demi-fond et ex-président du comité olympique kényan, et Hassan Wario, l'actuel ambassadeur du Kenya en Autriche, ont été inculpés avec 5 autres dirigeants sportifs kényans.
L'UEFA enquête sur le match PSG Étoile Rouge de Belgrade.
Oui, l'UEFA a décidé de mandater un inspecteur de sa chambre éthique et discipline pour conduire une enquête lors des incidents au Parc des Princes à l'occasion du match de Champions League entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est poursuivi notamment pour utilisation de fumigènes et troubles à l'ordre public. Cette affaire est totalement indépendante de l'enquête préliminaire ouverte à Paris pour des soupçons de trucage du match par un dirigeant du club serbe qui aurait parié de fortes sommes d'argent pour voir son équipe perdre par 5 buts d'écart.
On termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
Les Spurs, portés par LaMarcus Aldridge, 21 points, ont débuté leur nouvelle ère par une victoire 112 à 108 face à Minnesota. Pour ses débuts à Charlotte, Tony Parker s'est incliné face à Milwaukee, 112 à 113. Houston, candidat déclaré au titre, a chuté à domicile face à la Nouvelle-Orléans, 112 à 131. Bonne surprise des Knicks de New York qui s'impose face à Atlanta, 126 à 107. Enfin, Cleveland, orphelin de LeBron James, s'est incliné 104 à 116 à Toronto.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En Centrafrique, une motion de destitution est arrivée sur le bureau du secrétariat général de l'Assemblée nationale avec la signature de 95 députés dont le souhait est le départ du président de cette Assemblée, Karim Mekassoua, accusé de manquement à son devoir et de mauvaise gestion. La pétition sera étudiée demain par la conférence des présidents des commissions avant d'être exposée en plénière. Ekabadou a joint à Bangui Lidi Nzengu Kumagere, conseillère en communication au sein de l'Assemblée nationale.
95 députés ont donc signé une pétition pour la destitution du président de l'Assemblée nationale.
Alors, est-ce que vous attendiez à cela ?
Le bruit courait depuis plusieurs mois, donc de la volonté de certains députés de destituer le PAN. Mais avec toutes ces venues de personnalités pour venir faire une médiation au sein du bureau de l'Assemblée nationale, on pensait, je pense que les choses auraient pu trouver une autre issue.
Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Depuis, je pense, le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale de celui-ci, donc en mars de cette année, c'est une autre composition. Donc l'ancien bureau était composé de membres du chemin de l'espérance, donc le mouvement politique qui accompagne le président de l'Assemblée nationale. Celui-ci est beaucoup plus du cœur uni, donc le mouvement de la majorité présidentielle. Et pourtant, l'ancien bureau qui était acquis au président de l'Assemblée nationale dans le chemin de l'espérance fait aussi partie de la mouvance présidentielle, de la majorité présidentielle. Donc depuis mars, on a senti ça et là un peu des incompréhensions. Autant le président de l'Assemblée nationale était un peu mis en minorité.
Alors, vous dites qu'il a été en minorité et qu'il y a eu des incompréhensions. Quelle pourrait être l'issue de toute cette histoire?
Demain, cette audition de destitution sera examinée par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui va voir si c'est recevable ou pas recevable. Ensuite, la conférence des présidents peut décider qu'il puisse y avoir une concertation ou pas, ou alors aller directement au vote qui sera en plénière. L'Assemblée nationale, en toute transparence, devant la télé, devant la radio, il faudrait qu'il y ait les deux tiers de la majorité qualifiée des députés pour qu'il puisse y avoir véritablement une destitution. Alors, il y a quatre préalables inscrits dans la Constitution pour qu'il puisse y avoir la destitution du président de l'Assemblée nationale. On verra, on examinera, les députés examineront si ces quatre préalables sont compris dans la note qui a été déposée hier au secrétariat général de l'Assemblée nationale pour la décision. Maintenant, c'est le droit qui va parler.
Lidi Nzengu Kumagere, conseillère en communication au sein de l'Assemblée nationale en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Afrique, la passation de pouvoir de père en fils est très courante. C'est le cas notamment, entre autres, entre Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Ali Bongo a succédé à son père au Gabon, tout comme Faure Gnassingbé au Togo. Et certains partis politiques suivent à peu près le même chemin, comme par exemple l'UDPS en RDC. qui a vu Félix Tshisekedi succéder à son père à la tête du parti d'opposition. Idriss Fall lui a justement demandé ce qu'il en pensait lors d'une visite à la Voix de l'Amérique ici à Washington.
En tout cas, en ce qui me concerne, c'est démocratique, parce que je peux parler pour moi. Vous avez parlé de l'UDPS, je suis arrivé à la tête de l'UDPS par des élections, après la tenue d'un congrès qui a réuni plus de 1000 délégués venus de partout en République démocratique du Congo et même de l'extérieur, de nos représentations à l'extérieur. Donc dans mon cas, je peux parler de régularité parce que j'ai fait mes classes politiques à l'UDPS même pendant plus de 20 ans. J'ai gravi les échelons un à un. Je suis parti de la cellule jusqu'à arriver au niveau national de mon parti. Donc, je n'ai rien volé à qui que ce soit. Et je pense que si le peuple congolais, mes compatriotes le veulent, je serai leur président de la République.
Mais la perception, c'est important parce que les gens perçoivent que vous êtes le fils de votre père.
Oui, mais les fils ne sont pas forcément les ennemis publics numéro un. Encore faut-il savoir ce que on a proposé comme héritage reçu de son paternel, on va dire. Donc moi, j'ai eu un père qui a été totalement plongé dans la politique, qui a donné même une partie de sa vie, pour ne pas dire toute sa vie, pour la cause de notre pays. J'ai beaucoup appris à ses côtés et je pense que je suis suffisamment aguerri pour pouvoir faire face à toutes les épreuves qui se présenteront. Je suis quelque part, en tout cas, préparé à cette grande mission.
Pour terminer la parenthèse du père, pourquoi votre papa n'est toujours pas enterré à Kinshasa?
Très bonne question. Non, ça va bientôt faire 2 ans, au mois de février prochain. Donc on est à 3 mois de la commémoration du deuxième anniversaire de sa mort. Vous faites bien de poser cette question, mais malheureusement pas à la bonne personne. Il faudrait poser la question au régime Kabila, qui a complètement gelé ce dossier. Dans quel but, je ne sais pas.
C'était Félix Tshisekedi, président de l'UDPS en République démocratique du Congo.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Des formations politiques en Côte d'Ivoire ont annoncé qu'elles vont déposer des recours devant la Cour suprême suite à la proclamation des résultats des élections municipales et régionales du 13 octobre. Le point avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Avec 92 communes remportées sur 200 et 18 régions sur 30, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, peut se targuer d'être la première force politique du pays. Mamadou Touré, porte-parole du RHDP.
Nous sommes la première formation politique dans notre pays au regard des chiffres. Nous sommes aujourd'hui la seule alternative en termes d'union et de rassemblement des Ivoiriens. Nous avons été la seule formation à même de placer des candidats sur l'étendue du territoire et nous sommes la seule formation à avoir des candidats élus sur l'ensemble du territoire.
La large victoire du RHDP est cependant contestée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, qui a remporté 6 régions sur 30 et 50 communes sur 200. Le parti d'Henri Konan-Bédié parle de braquage électoral dans certaines localités. Maître Emile Suibi, l'un des avocats du PDCI.
Les candidats du PDCI RDA ont été victimes d'un braquage électoral et se sont fait voler leur victoire. Nous allons donc exercer les voies de recours que le code électoral nous donne, c'est-à-dire saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour demander l'annulation de ces résultats et la reformation pour proclamer les candidats qui sont effectivement vainqueurs, c'est-à-dire les candidats du PDCI RDA.
Pour le RHDP, le PDCI est un mauvais perdant qui refuse simplement d'assumer son échec. Mamadou Touré, porte-parole du RHDP.
Il ne faut pas être mauvais perdant et nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Très souvent, c'est le plus grand voleur qui crie le premier au voleur. Nous avons aussi suffisamment d'éléments, notamment dans certaines localités, sur les tentatives de fraude venant donc de certains candidats du PDCI. Nous restons attachés à l'état de droit et nous avons, pour ces cas-là, introduit des recours.
À la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la CNDHCI, on déplore les incidents qui ont émaillé ces élections. Namizata Sangaré, présidente de la Détocommission.
La CNDA CI reste préoccupée par ces situations qui font peser de sérieux périls sur la cohésion sociale. La CNDA CI lance un appel à la retenue afin de préserver la paix, la cohésion sociale et le respect des droits de l'homme. Elle invite le procureur de la République à s'auto-saisir de tous les cas d'atteinte aux droits de l'homme afin de situer les responsabilités et d'engager des poursuites à l'encontre des présumés auteurs.
Plusieurs candidats aussi bien du pouvoir que de l'opposition, ainsi que des indépendants, ont décidé de déposer des recours devant la Cour suprême. De nombreuses contestations liées à ces élections municipales et régionales ont remis au devant de la scène le débat sur la réforme de la commission électorale indépendante. Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique, Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le multipartisme intégral adopté par le Bénin en 1990 a engendré la naissance de nombreux partis politiques. Ils sont plus de 200 à animer la vie politique dans une confusion qui ne dit pas son nom. C'est donc pour essayer de résoudre ce problème qu'interviennent les réformes du système partisan, objet de toutes les récriminations. Pour certains, le président Patrice Talon veut éliminer la concurrence et pour d'autres, il est temps de mettre un terme aux activités des clubs électoraux érigés en partis politiques. Des précisions avec la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
L'émiettement du système partisan béninois est entretenu par l'existence de centaines de partis et coalitions de partis politiques. Et pour mériter d'être toujours la vitrine de la démocratie en Afrique, un réaménagement du système partisan s'impose. C'est la raison d'être de certaines des réformes engagées par le gouvernement Talon sur le plan politique. Mais certaines personnes, comme l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Maître Robert Dossou, pensent qu'il n'y a pas de multipartisme restreint.
On peut avoir 500 partis politiques, c'est pas effrayant. Au fur et à mesure, des partis politiques vont mourir. Depuis que le monde est monde, aucune réglementation n'a réussi à limiter le nombre de partis politiques dans un pays démocratique. Ça, c'est une voie qui conduit à la dictature. Je le dis, je le pense. On peut les restreindre par le biais des élections. Alors, laissez les partis proliférer. C'est là le jeu de la liberté totale.
Même analyse de Nouremi Achadé, député de la minorité parlementaire. Pour lui, les réformes du système partisan sortent comme une intention à peine voilée d'écraser toutes les formation politique.
Le parti au pouvoir veut éliminer la concurrence. Et c'est ce qui est dommage dans ce texte. Au moment où FCBE était au pouvoir, si cette loi-là était en vigueur, aucun parti ou peu de partis aujourd'hui seraient représentés à l'Assemblée nationale.
Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Depuis que la conférence nationale a ouvert la voie au multipartisme intégral, les partis sont nés de part et d'autre, mais seulement quelques-uns jouent réellement leur rôle dans l'animation de la vie politique. Pour l'analyste politique Rachid Balogou, il est nécessaire d'arrêter la saignée. C'est primordial pour la sauvegarde des acquis démocratiques.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
On fait un rappel des titres de l'actualité. Procédure de destitution lancée contre le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Abdou Karim Mekassoua. Il y a 20 ans de prison aussi et 5 millions d'amendes pour l'opposant béninois Sébastien Djavan. Un verdict prononcé par une cour spéciale au Bénin. Sachez aussi que la sœur de l'opposant camerounais, John Fundi, a été enlevée et les militants anglophones sont pointés du doigt. Et la maison de l'opposant camerounais aurait été brûlée également dans le nord-ouest du Cameroun. L'opposant congolais Félix Tshisekedi, lui, leader de l'UDPS, est en visite à Washington. Nous avons fait une interview, la Voix de l'Amérique l'a interviewé, Idriss Sall exactement, et le président américain Donald Trump, ça c'est aux États-Unis, donc menace de fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Vous en saurez plus dans nos prochaines éditions, nos prochains bulletins. Et pour Le Monde aujourd'hui, donc, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Cheikh Thierrot. À la console, notre ami John Duro. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.